partir de la semaine prochaine, nous nous verrons sourire. Vous le savez quasiment tous, mais je le dis quand même. Nous sommes dans une série d'études sur les paraboles. Et donc, je poursuis cette série. Et j'ai par conséquent choisi une parabole. Alors, là, c'est le comble de la paresse pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une parabole que Jésus lui-même explique. Donc, ce que j'avais. C'est la deuxième parabole que j'étudie et qui présente cette caractéristique. La première parabole était la parabole du semeur. Et évidemment, j'avais dit, et je le redis aujourd'hui, qu'il n'est pas question de prétendre ajouter du sens au sens que Jésus lui-même a donné. Je sais qu'il y a des théologiens qui le font. Ça n'est pas notre propos, ça n'est pas le mien en tout cas. Et bien sûr, à mon sens, il faut s'en tenir à l'explication et au sens que donne Jésus. Et donc, la deuxième raison pour laquelle je vais, alors pour le coup, essayer d'être bref, je sais que ça fait rigoler tout le monde quand je dis ça, mais c'est que la parabole que j'étudie aujourd'hui, qu'on appelle communément parabole du bon grain et de l'ivraie, est en fait une parabole jumelle. Alors vous le savez peut-être, dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, il y a sept paraboles, et qui marchent par paire. Alors, par paire, sauf une, bien sûr. Mais, donc il y a deux paires de deux, non, il y a trois paires de deux, et une parabole toute seule. Et donc, la parabole jumelle de la parabole du semeur, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, ce qui me donne le confort de ne pas répéter tout ce que j'ai dit à propos de la parabole du semeur, et à attaquer directement la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui se trouve donc dans le chapitre 13 de Matthieu, à partir du verset 24. Voilà. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux. Alors, petite parenthèse, Matthieu est un juif qui s'adresse à des juifs. Donc, il utilise l'expression « royaume des cieux » plutôt que « royaume de Dieu », parce que Dieu, c'est un mot... vous savez sans doute que quand le nom de Dieu apparaît dans les textes donc de l'Ancien Testament, les Juifs ne prononcent pas ce mot, parce qu'il est trop sacré pour pouvoir être prononcé par un être humain, et puis ce serait une manière de s'approprier Dieu. Donc les Juifs, systématiquement, quand le texte porte le nom de Dieu, remplacent le nom de Dieu par « Seigneur », quand ils le donc Adonai, et donc Matthieu, qui encore une fois écrit, qui est juif lui-même et qui écrit à des juifs, évite de mettre dans son texte le nom de Dieu, et donc il remplace, alors ce qu'on trouve ailleurs, dénommé royaume de Dieu, lui, il l'appelle royaume des cieux. Alors là encore, je sais qu'il y a des savants qui font la différence entre les deux, personnellement, moi j'en fais pas, mais je suis pas un savant. Donc il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il se trouve aussi de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?»« Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Je saute deux paraboles jumelles pour arriver au verset 34. Tout cela, Jésus le dit aux foules, en parabole. Alors, quand il raconte donc cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est aux foules, en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. « J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour la brûler au feu. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entende qui a des oreilles. » Voilà. Juste une petite... parce qu'on ne se concerte pas à ce point-là. Juste une petite parenthèse, puisqu'on vient de chanter « Tu resplendis comme un soleil ». Que nous, on dise ça au Seigneur, c'est normal. Que lui nous le dise, c'est un cadeau absolument inouï. C'est lui qui nous dit à nous, et singulièrement qui me dit à moi, « Tu vas resplendir comme un soleil ». Pour l'instant, je n'ai pas une tête de soleil. Mais il va faire en sorte que j'en sois un. Mais ça n'est pas mon sujet. Vous l'avez compris, cette parabole aborde, je ne vais pas être prétentieux, mais au moins un sujet très délicat, sinon le sujet délicat par excellence, c'est le problème du mal. C'est le problème du mal. Il y a deux choses auxquelles notre témoignage de chrétien se heurte dans le monde qui nous entoure. Et la première lecture de ce texte induit cette réflexion, cette objection, ces deux objections même. La première, effectivement, c'est la question de la pérennité du mal, qui est un mystère absolu. Comment ? C'est posé par tous les philosophes, je fais simple. Comment un Dieu qui se dit absolument bon et qui se dit tout puissant peut laisser le monde dans cet état-là ? La réponse de la plupart de nos contemporains, c'est la seule excuse qu'on peut lui trouver, c'est qu'il n'existe pas. Parce que, et vous l'avez entendu, ça va du philosophe au comptoir du bar du coin. Hein. S'il y avait un Dieu, alors surtout, la gloire de Dieu resplendit sur toute la terre, comme on dit dans les nombres, on a envie de répondre, bah, t'as pas la télé, toi, en ce moment. C'est un défi. On va y venir. C'est un défi qui nous est posé d'accepter, et cette parabole a cet intérêt d'éclairer un peu les choses. Mais en tout cas, il faut rester très humble par rapport à ça et se dire que ce que Dieu peut nous dévoiler sur un sujet aussi hors de portée que celui-là, c'est seulement ce qu'on peut comprendre. Alors, je ne me lance pas là-dedans parce qu'il faudrait des heures, mais c'est toute la problématique de Job. Job qui sait ce qui lui arrive, mais qui ne sait pas pourquoi. Et qui pose la question. On a le droit de dire à Dieu pourquoi. Enfin, on a même... Il me paraît impossible de vivre une vie d'être humain sans être amené à un moment ou l'autre à dire à Dieu mais pourquoi ? Pourquoi tu n'interviens pas ? Pourquoi tu laisses... Et j'allais dire, dans l'actualité, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais dans l'actualité, on a de la matière pour ça. Pourquoi tu laisses le mal ? Et vous avez remarqué, entre parenthèses, comme c'est facile d'aimer ses ennemis quand on n'en a pas. Hein. Et quand on en a, c'est un peu plus compliqué quand même. De prier pour ceux qu'on considère comme des salauds. Jésus a vécu ça, et a vécu ça concrètement. L'hostilité, c'était pas un concept pour lui, c'était une réalité. Donc le premier problème que ça pose, c'est effectivement le problème, non pas du mal, non pas de l'existence du mal, mais de la pérennité, j'y viendrai tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est le problème du manichéisme. Encore un texte où on nous dit « il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre ». Encore un texte où on nous dit « le bon grain, l'ivraie, les brebis, les boucs », alors qu'on sait bien, nous les humains, que rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est ça qu'on appelle le manichéisme, hein. C'est quand on dit « tout ça c'est parfaitement bon, tout ça c'est parfaitement mauvais ». Ça n'existe pas. L'humanité, c'est, je vais vous faire sourire, 50 nuances de gris. C'est-à-dire qu'on est quelque part entre le gris clair et le gris foncé, mais jamais tout blanc, jamais tout noir. Vous savez, Hitler aimait son chien, et peut-être accessoirement Eva Braun aussi. Et puis, à l'opposé, Madame Gandhi s'est laissée aller à dire que son mari n'était pas drôle tous les jours. Donc, la perfection dans un sens où le mal absolu de l'autre, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut faire le tri entre les deux? Moi, je suis gris, hein. Donc ça, c'est le deuxième défi que ça pose. Et pour répondre à ça, Jésus donne cette parabole. Alors, cette parabole qui mérite, peut-être d'emblée, mais vous en savez certainement autant que moi sur le sujet, une précision technique. Enfin, technique. Qu'est-ce que c'est que l'ivraie? L'ivraie, c'est une plante qui, dans la première phase de sa croissance, ressemble au blé, au point qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux. Tant que le blé et l'ivraie ne sont pas arrivés à maturité, il est quasiment impossible de les différencier. Alors, à la fin de la croissance, oui, on y arrive parce que les épines se... Je me suis un peu documenté là-dessus, les épines ne se comportent pas de la même manière, enfin bref. Mais en tout cas, on pourrait dire que l'ivraie, c'est le Canada Dry du blé. C'est-à-dire que ça a la même apparence, encore une fois, dans la première phase de croissance, mais, en revanche, l'ivraie, c'est toxique. C'est toxique, et on sait bien que... Enfin, les gens qui... Alors, je dis ça parce qu'il y a peu de personnes ici qui travaillent la terre, alors que quand Jésus raconte ça, évidemment, il n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que l'ivraie. Il n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que du blé, il n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que semer, parce que quasiment tout son auditoire le fait, ou à au moins une partie de sa famille qui s'adonne à cette activité. Et donc, pas besoin de dire tout ça. L'ivraie, c'est quelque chose qui, au contraire du blé, a un pouvoir, non seulement un pouvoir nutritionnel quasiment nul, mais qui est, encore une fois, mauvais au sens le plus fondamental du terme. Parce que si on fait de la farine avec trop d'ivraie dans le blé, ça se passe mal, c'est-à-dire on tombe malade, on a des maux de tête. Pour résumer tout, sachez qu'en français, ivraie et ivresse sont deux mots de la même origine, parce qu'effectivement, quand vous mangez de l'ivraie, enfin quand vous mangez du pain à base de farine trop imprégné d'ivraie, ça fait tourner la tête. Alors, ce qu'on vous dira aussi, enfin, si vous avez pris le temps de regarder ce texte de près et peut-être quelques commentaires, la première chose qu'on dit, c'est que tout le monde connaît le mot grec traduit par ivraie, puisque le mot grec, vous le savez peut-être, c'est zizanie. D'où l'expression semer la zizanie, zizania. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle un glissement sémantique, c'est-à-dire que aujourd'hui, semer la zizanie, ça veut dire semer la discorde, semer le conflit. Ça veut dire ça, semer la zizanie. Or, à l'origine, cette expression, elle ne veut pas dire ça. Semer la zizanie, c'est semer la confusion. C'est-à-dire, le blé et l'ivraie, ils ne s'engueulent pas. C'est pas zizanie dans le sens de discorde, mais ils se confondent. Je précise ça parce que l'action du diable, c'est semer la confusion. Et donc là, on a affaire à... Alors je vais vite, j'ai promis, je fais. On a affaire à un maître dont... Il y a des choses quand même au détour des phrases, il y a des petits détails qui me font plaisir. On dit c'est son chant. Et après on dit le chant c'est le monde. Enfin, il dit le chant c'est le monde. Le monde, alors ça se voit pas à l'œil nu, je suis d'accord, mais le monde est à lui. Le monde est à lui. Il est chez lui. Jean, dans son prologue, dira il est venu, alors littéralement, dans ce qui lui appartient. Il est venu chez lui. Et ce qui lui appartient ne l'a pas reçu. Mais c'est son champ. Et c'est son grenier. Le ciel, c'est-à-dire l'autre monde, c'est aussi quelque chose qui lui appartient. C'est aussi quelque chose dans lequel il met ce qu'il veut et il ne laisse pas entrer ce qu'il veut aussi. Il est souverain du champ, c'est-à-dire du monde, et du grenier, c'est-à-dire de l'au-delà. Ça lui appartient. On a affaire, et c'est pour ça que je vous disais, c'est une parabole jumelle par rapport à la parabole du semeur, on a affaire à la révélation de ce qu'est la deuxième technique du diable. Vous vous souvenez que dans la parabole du semeur, Jésus explique aussi, en disant ça correspond à ça, ça correspond à ça, et il dit, le diable, c'est les oiseaux. Le diable, c'est les oiseaux, puisque vous vous souvenez que donc le semeur sème, très bien, et il sème, une partie de la semence tombe au bord du chemin, et comme ça ne pousse pas, les graines restent sur le chemin, et les oiseaux viennent et prennent les graines, donc d'en haut, puisque dans la parabole du semeur, il y a ce qui vient d'en haut, il y a ce qui vient du même niveau, et il y a ce qui vient d'en bas, mais là, il est question de ce qui vient d'en haut, et donc le diable, nous explique Jésus, prend la parole qui a été semée et l'enlève parce qu'il ne s'est rien passé entre deux. Là, on a affaire à une autre technique du diable révélée par Jésus, c'est que, puisque une des caractéristiques du diable, si ce n'est la principale, c'est l'imitation, c'est la contrefaçon. Le diable, c'est le contrefacteur par excellence. Et donc, il va venir la nuit, évidemment, dans l'obscurité. Rien de ce qu'il fait se fait dans la lumière, se fait en plein jour. Il vient dans l'obscurité pendant que les gens dorment. Et il sème, c'est-à-dire il fait le même geste que le propriétaire du champ, le même geste que ce que le propriétaire, le maître du champ, a fait dans la journée. Lui, il le fait la nuit, mais avec une toute autre semence. Et une semence qui a pour but, encore une fois, de se confondre avec la bonne semence, avec le blé, pour que la moisson soit rendue beaucoup plus difficile. Et la première des bonnes nouvelles, il y a au fil de cette parabole quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les serviteurs voient que il n'y a pas que du blé qui pousse, parce qu'on commence à voir, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, dans un premier temps, on ne peut pas faire la différence entre le blé et l'ivraie. Dans un deuxième temps, on commence à voir qu'effectivement, il y a des trucs qui poussent et ça n'a pas l'air d'être du blé. Et donc, les serviteurs, en toute logique, disent au maître, ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Toi, tu es bon, tu fais des bonnes choses. Et la première, j'allais dire, réponse au défi qui nous est lancé par rapport à la situation du monde, c'est cette interrogation-là. Mais Seigneur, toi qui es le propriétaire du champ, c'est ton monde. Et toi, tu n'es capable que de bonnes choses. Ça ne peut pas être toi. Cette pagaille, qui fait des victimes dans tous les sens et dans tous les lieux. Ça ne peut pas être toi. Et effectivement, le maître répond, bien sûr que non, c'est pas moi. Bien sûr que non. Et le Dieu que... Parce que c'est paradoxal de dire, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Et puis en même temps, dire, c'est lui qui est responsable parce qu'il dort. Non, c'est faut savoir. Mais les véritables serviteurs du maître savent que le maître est incapable de semer de l'ivraie dans son champ. Et donc, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, la première bonne nouvelle, c'est que, quand ils disent ça au maître, mais d'où ça vient? Et effectivement, on retrouve là, dans cette question-là, toute l'interrogation humaine sur le mal. Comment se fait-il qu'il y ait le mal, alors que toi, tu es parfaitement bon? Et là, le maître dit, je suis comme vous, j'en sais rien. Hein. Non, c'est pas sa réponse. La première bonne nouvelle, c'est que même si ça s'est fait la nuit, même si ça s'est fait sournoisement, même si ça s'est fait méchamment, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Il l'appelle Seigneur, hein, les serviteurs. Curios, hein, en grec. Ils disent pas propriété, ils disent Seigneur. Tu es le Seigneur. Je sais bien que c'est un terme qui est large et largement utilisé dans le grec. Mais là, le Seigneur est le Seigneur parce qu'il sait. Il n'hésite pas une seconde. Non, c'est un ennemi qui a fait ça. Alors après, on n'en saura pas plus. Et quand je dis le mystère du mal reste opaque, en tout cas en partie, c'est que moi, j'aurais été... Heureusement que je n'étais pas parmi les disciples, parce qu'il aurait eu du boulot. J'aurais été parmi les disciples, j'aurais dit, mais attends, tu nous réponds, c'est un ennemi qui a fait ça, donc tu le sais qu'il est venu la nuit, pourquoi tu lui as pas cassé la gueule avant? Ça, c'est un mystère. Pourquoi, et c'est le même mystère qu'on retrouve dans le livre de Job. Job, ça commence par, Dieu était là, et Satan se pointe et lui dit, tiens, alors Dieu dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job quand même? Classe, hein? Et Satan lui dit, je te lance un défi, je lui fais tomber sur la cafetière tous les malheurs possibles et imaginables, et puis on va voir ce que ça donne à la sortie, on va voir, et moi je te parie. Mais attends, est-ce que tu es là pour lancer des paris sur les humains qui sont mes créatures? Là où le mystère devient opaque, c'est que Dieu n'écrabouille pas Satan d'un revers de talon, mais il dit d'accord. Une des réponses, un des coins par lequel le voile peut être levé, c'est que effectivement, la foi que Job a dans son Dieu, elle est éprouvée. Et là, j'allais dire c'est pareil. Une des causes, si ce n'est la cause de l'existence, en tout cas de la pérennité du mal, c'est de mettre à l'épreuve notre foi dans notre Dieu. Qu'est-ce qui reste? Alors, on a bien fait de passer un moment en prière en disant à Dieu merci, merci pour tout, merci pour la santé, merci pour... Bien sûr, on a raison de le faire. Qu'est-ce qui reste quand tout ça, pas forcément tout d'ailleurs, mais une partie de ça nous est enlevée, quand Dieu ne garantit, parce qu'il n'a rien promis dans ce domaine, il n'a pas dit « vous serez en bonne santé du premier jour au dernier jour de votre vie, vous n'aurez jamais de peine, jamais de deuil, tout ira bien, vous aurez toujours du boulot, vous aurez toujours du pognon ». Il a promis exactement le contraire à ses disciples, il leur a dit « vous me suivez, vous allez au-devant des emmerdements ». Mais qu'est-ce qui va rester de votre foi, de votre confiance en moi, quand vous aurez été éprouvé? Et c'est ça le sens du mal. Alors, pas de réponse à la question « Pourquoi t'as laissé faire ?» mais une confiance dans le fait d'avoir un maître qui sait ce que nous on ignore. L'interrogation sur le mal, comment se fait-il qu'il y ait le mal? Et Dieu répond, j'ai un ennemi. Alors pourquoi tu ne l'as pas écrabouillé? Parce qu'il faut laisser à ce qui pousse le temps de se déterminer. Blé ou ivraie. Le Seigneur sait ce qui s'est passé. Le Seigneur sait pourquoi. Quand on lui dit « Pourquoi il m'arrive ça ?», sa réponse est « Moi, je le sais. Moi, je le sais. J'ai un ennemi. » Et j'allais dire, la seule chose que Jésus, ou Dieu en l'occurrence, ignore, c'est l'ignorance elle-même. Il sait, alors qu'il aurait pu y avoir... Logiquement, si on était entre êtres humains, il y aurait eu un effet de surprise. Encore une fois, un maître qui dit bah, « Les gars, je suis aussi surpris que vous, hein. Et puis surtout, moi, je ne sais pas comment gérer la situation. » Non seulement le Seigneur sait ce qui s'est passé, mais le Seigneur sait aussi comment il va gérer ça. Il est pas, il tombe pas des nues. Il n'est pas pris au dépourvu. Il a ce qu'on appellerait en philosophie le sens de l'histoire. Il sait comment tout ça va finir. Et il le dit à ses serviteurs. Et là, les serviteurs montrent à quel point ce sont de bons serviteurs. Et en bons serviteurs qu'ils sont, évidemment, ils ont leurs idées sur la question. Évidemment, ben, on va t'aider, Seigneur. Oh là là. Le nombre de fois... où les chrétiens prétendent aider le Seigneur, qui leur a rien demandé, d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis surtout, à leur manière, parce qu'eux ont leur idée sur la question. Bon. Il y a du machin qui pousse, là. Eh bien, ça n'a rien à faire là, on va l'enlever. C'est pas idiot comme raisonnement, c'est pas absurde, c'est même plutôt sain. Puis ça fait preuve d'une bonne volonté, parce que est-ce que tu veux que on... Ça veut dire, je suis prêt, en bon serviteur que je suis, à me mettre au boulot pour toi, mon maître. Sauf que tu ne m'as rien demandé. Sauf que j'ai mon idée sur la question, et moi, serviteur, je vais t'expliquer à toi le maître comment il faut que je m'y prenne pour te rendre service. Ben non merci. Non merci. Le nombre de fois où Dieu est obligé de nous dire « Surtout ne m'aide pas, parce que ce serait pire. » Il y a aussi ça. Et là, le mot est catégorique, et il y est, et il est au milieu de la parabole, et on peut pas en faire le tour. Non. Non merci. Non merci, et ce non, c'est un triple non. Pourquoi est-ce que c'est un triple non? Ben parce que c'est non pas vous, non pas maintenant, non pas comme ça. Non pas vous. Vous avez bien écouté attentivement, ce sont non pas les serviteurs, mais les moissonneurs qui vont faire le boulot. Les serviteurs, on va dire que c'est nous, et encore c'est prétentieux, les moissonneurs, ce sont les anges, dit Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que on n'a quand même pas, nous, qui sommes gris, je le disais tout à l'heure, pour le temps de ce qui reste de notre vie terrestre. Après, Paul va expliquer qu'on va revêtir la perfection. Bon, ça va me faire tout drôle, moi. En attendant, on est gris. Et quand on est gris, on ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal. En tout cas, pas de manière absolue. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, Et c'est pour ça que Jésus leur dit, si vous faites ça, vous allez faire les choses de travers. Vous allez arracher, parce que, est-ce qu'on arrache ? Ouais. Non, vous allez arracher le bien en même temps que le mal. Vous allez décider, vous, ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est-à-dire ce qui est la bonne herbe et la mauvaise herbe, enfin, plus que de l'herbe d'ailleurs, la bonne semence et la mauvaise semence, et vous allez, c'est le cas de le dire, vous planter. Parce que vous n'avez pas en vous la capacité de faire la différence entre le bien et le mal, parce que vous êtes vous-même en partie du blé, certes, et vous avez vocation à resplendir dans le grenier, tout ce que vous voulez, mais en attendant, une partie de vous-même doit être brûlée. Il y a par ailleurs beaucoup de textes qui nous expliquent ça, que le temps qui reste est la condition humaine pour les disciples du Christ, c'est aussi l'occasion de se débarrasser du mal et d'aller dans le sens du bien. Donc pas vous. Donc pas maintenant. Ah ça, la gestion du temps. Dieu, par la bouche de Jésus, là, leur dit pas de précipitation. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la différence entre le bien et le mal va apparaître au grand jour. Il y a un moment où il n'y aura plus de risque de confondre les deux épis. Il y a un moment où il sera temps, non pas pour vous encore une fois, mais pour les anges, de séparer, là pour le coup. Et puis, non pas comme ça. Pas comme ça parce que, encore une fois, jusqu'à présent, il est difficile, voire impossible, de s'attaquer au mal sans endommager le bien. Et on voit bien là que le souci du maître, c'est que aucun épi de blé ne soit pris pour de l'ivraie et aucun ne soit détruit comme si c'était du mal alors que c'est du bien. Le bien qui est en nous, Dieu y tient cette identité qui vient de lui d'ailleurs, puisque c'est lui qui sème, c'est son grain à lui qui fait qu'il y a du blé. Ce qu'il y a en nous de blé, c'est tellement précieux pour lui que pour rien au monde, il ne voudrait que par accident ce soit arraché. Pas un seul épi de blé ne doit être coupé avant la moisson. Pas un seul épi de blé, pas un seul atome de ce qu'il y a de bien en nous, de ce qu'il a planté en nous de bien, ne doit être confondu avec le mal. Et ça, c'est pas vous qui pouvez le faire, parce que vous n'en savez rien. Ah bon ? Écoute, moi, Seigneur, ton serviteur, qui a décidé de te rendre service, quoi que tu en penses, je sais bien faire la différence entre le blé et l'ivraie. Par exemple, le blé, c'est tes compagnons les plus proches. Ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Ceux que toi, tu as choisis pour être tes compagnons, les 12 mecs, là, que tu as sélectionné, forcément, c'est le blé. Ah ben non, il y a Judas. Mais ça, t'en sais rien. Bon, alors, prendre le problème autrement. L'ivraie, tous les salauds qui nous persécutent, au moins, là, on sait que c'est le mal incarné. Et parmi ceux-là, le plus zélé d'entre tous, dans la méchanceté, ah oui, mais c'est Paul. Paulus, parce qu'il est romain, mais en réalité, Shaoul. Celui-là, on va tout de suite le couper, parce qu'on sait que c'est une pourriture. Non. C'est celui que j'ai choisi pour être parmi les plus efficaces de mes serviteurs. Alors, on voit à quel point il faut surtout pas qu'on s'en mêle. Si, faire la différence entre le blé et l'ivraie, ok, mais en nous. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre boulot. Mais distribuer les bons points et les mauvais points, c'est un risque qu'il ne faut surtout pas prendre. Parce qu'on n'est pas du tout équipé pour le faire, parce que ça n'est pas le moment de le faire, et parce que ça n'est pas la manière de le faire. Combattre le mal, oui, mais en nous. Et pour que, précisément, ce qu'on a vocation à devenir, c'est-à-dire une récolte que le maître du champ va mettre dans son grenier, là, effectivement, il y a une anomalie, je dirais, dans ce récit, c'est que Jésus dit, enfin le maître dit à propos des anges, à propos de la moisson, à ce moment-là, ils vont d'abord s'occuper de l'ivraie, prendre le soin de la mettre en botte, et puis brûler. Puisque c'est brûlé, pourquoi est-ce qu'on va s'empoisonner la vie à, d'abord, on ferait mieux de faire le contraire, parce que on récolte le blé, on fout un coup de lance-flamme derrière et le problème est réglé. Mais au moins, si on dit, bon, bah, on commence par l'ivraie, on ramasse l'ivraie, bon, c'est du boulot, enfin, hein, au moins, on se débarrasse de ça comme on peut. On fait pas des... Non, il faut surtout pas. Et c'est le souci du maître, qu'à aucun moment il y ait de mélange. Et que ce qui est destiné à brûler, ce soit bien identifié, bien mis en botte, pour que le blé, la bonne récolte, soit séparé, puisque ce qui est annoncé dans les temps de la fin, c'est toujours la séparation. Et effectivement, ce n'est pas du manichéisme, c'est la patience de Dieu qui laisse à chaque être humain le temps de se déterminer. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour que Judas bascule du mauvais côté et pour que Saul de Tarse bascule du bon. Et il y a un temps pour nous aussi. Il y a un temps pour chacun. Pour nous, ce moment est peut-être et même sans doute déjà dans notre passé. Bon, il nous reste à faire ce chemin sur lequel on est appelé, d'éradiquer en nous l'ivraie. C'est-à-dire ce qui nous saoule, ce qui nous donne l'ivresse de ce que peut offrir le monde. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri. Et le seul moment où la différence se fera, c'est à la fin de la croissance à laquelle on est appelé. C'est-à-dire une fois que on sera épanoui comme bonne semence et donc comme bonne récolte potentielle, là, la récolte viendra. Et là, et c'est la dernière bonne nouvelle, oh ben ça y est, j'ai épuisé mon temps, c'est la dernière bonne nouvelle, et ça mérite d'être relu. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est son champ, c'est son grenier. Mais c'est notre Père.